dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Je trouve ça incroyable, quoi, le prix cher qui doit être payé par ce jeune homme pour juste avoir rêvé d'un autre monde meilleur avec 600 000 autres et de se retrouver juste parmi les 10 qui doivent casquer.
Notre ami était sous le coup du fameux mandat d'arrêt européen. Il veut éventuellement livrer à l'Italie notre copain pour simple participation à une manifestation.
Peine complétée par une loi italienne de 75 qui évoque la notion de concours moral fait que vous êtes en mesure de condamner quelqu'un sans avoir la moindre preuve et sans donner la moindre présomption d'innocence à la personne.
Vincenzo Vecchi,
ni prison,
ni extradition,
sur dissonance. Imaginez, vous êtes un ou une citoyenne d'un pays européen. Vous participez à une manifestation où des affrontements violents ont lieu. Pour y avoir été photographié, et alors que rien ne prouve que vous avez été l'acteur de violence, un procès vous condamne à plus de 10 ans d'incarcération. Ce qui permet cela, c'est une vieille loi prise à l'époque dans votre pays où les fascistes étaient au pouvoir. Pour éviter la prison, vous fuyez et vous venez vivre en France, le pays des droits de l'homme. Et là, la police française vous arrête et vous risquez d'être renvoyé dans votre pays pour y purger cette peine qui se base sur une loi rétrograde, désuète et fasciste, alors que les faits qui vous sont reprochés ne sont même pas condamnables dans notre pays.
Eh bien, c'est ce qui arrive à Vincenzo Vecchi, un Italien qui depuis 2012 vit en France et parfaitement intégré, mais que la justice italienne veut récupérer pour l'incarcérer.
Pourquoi la France bafouerait-elle ses valeurs et se soumettrait à un article du code Rocco de 1930, une loi adoptée sous le régime italien de Mussolini?
C'est ce que nous allons tenter de comprendre pendant une heure en compagnie d'Anne, de Jules et d'autres membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Tout commence en 2001 à Gênes, ville portuaire du nord-ouest de l'Italie. Le 19 juillet, c'est l'ouverture de la 27e édition du sommet G8 réunissant les dirigeants de 8 puissances mondiales. En marge de ce sommet, se déroule un contre-sommet anti-G8.
Le 20 juillet, Carlo Giuliani, un manifestant altermondialiste, est tué par un carabinier et de nombreux militants sont arrêtés. Ce carabinier sera acquitté le 11 février 2011 et l'affaire classée sans suite. Durant 3 jours à Gênes, les manifestations regroupant entre 200 000 et 300 000 manifestants se succèdent. Le 22 juillet, la police investit l'école Diaz, un lieu où était installé le centre des médias indépendants. Environ 300 manifestants y ont été arrêtés. 93 ont été ensuite séquestrés pendant 3 jours dans la caserne de Bolzaneto, y subissant sévices et humiliations.
On est monté à l'étage et je me suis cachée avec un copain à moi dans des toilettes. Et on a entendu la fourrie monter, les étages, les hurlements, les coups et tout ça. C'était très horrifiant. Et après, ils sont arrivés, ils m'ont cassé la tête avec une matraque, parce que je me couvrais. Et ils m'ont pris en fait, ils faisaient descendre tout le monde. Tout le monde allait au rez-de-chaussée après. Et ils m'ont tabassé, ils m'ont encore tabassé, ils m'ont craché dessus. Ils étaient tous couverts, en fait. Ils étaient 300 policiers. Ils étaient tous, en fait, ils avaient une haine, une violence que j'ai jamais vue, en fait. Il y a eu de centaines de blessés.
Quinze carabiniers seront condamnés en 2008, accusés de sévices et de traitements vexatoires infligés aux manifestants séquestrés à la caserne de Bolzaneto après la descente à l'école Diaz. Ils subiront des peines de prison allant de 5 mois à 5 ans. 30 autres membres des forces de l'ordre seront acquittés lors de ce même procès. 13 hauts responsables de la police passeront en cour de cassation en 2012 pour divers chefs d'accusation relatifs à des actes de répression lors du sommet du G8 à Gênes en 2001. Aucun d'entre eux n'effectuera de peine de prison en raison de l'amnistie générale datant de 2006, mais ils seront exclus de la fonction publique pendant 5 ans. Arrêté à son domicile par les policiers, 16 mois après les manifestations de Gênes, Vincenzo Becchi accomplit une peine d'un an pour crime de dévastation et pillage.
Trois ans après les manifestations contre le G8, en 2004, s'ouvre à Gênes le procès contre 26 manifestants accusés de dévastation et saccage, en rapport aux révoltes contre le G8 de juillet 2001. Le délit de concours moral y refait son apparition. L'État affirme ainsi qu'il n'est pas nécessaire de participer directement à des actions de révolte pour connaître les faveurs de la répression, mais qu'il suffit simplement pour cela d'être présent là où elle se déroule sans empêcher les autres de les accomplir.
Depuis 3 ans, le G8 de Gênes se réécrit dans les salles du tribunal. Il y a 3 procédures principales en cours. Une première pour l'irruption de la police dans l'école Diaz Pertini, pour laquelle sont imputés 28 fonctionnaires de la sécurité publique. Une seconde pour les tortures infligées à environ 300 personnes à la caserne de Bolzaneto, avec 45 inculpés, agents et fonctionnaires de police d'État, police pénitentiaire, carabiniers et personnel médical. Et enfin, une troisième procédure contre 25 manifestants accusés de dévastation et saccage, délit qui peut conduire à une peine de prison allant de 8 à 15 ans.
En mars 2006, à Milan, une manifestation organisée par le parti politique d'extrême droite Fiamma Tricolore est autorisée. Pourtant, selon la loi Celba, cette manifestation aurait dû être interdite pour apologie du fascisme. En revanche, la contre-manifestation à laquelle participe Vincenzo Becchi, elle, n'est pas autorisée. 45 personnes seront arrêtées et 18 seront condamnées à 4 ans de réclusion pour dévastation et saccage. En 2009, la cour d'appel de Gênes condamne 10 inculpés pour dévastation et saccage lors du contre-sommet du G8 à Gênes en 2001, dont Vincenzo Becchi, qui écope de 12 ans et 6 mois de prison. 10 ans de prison pour crimes de dévastation et pillage et 2 ans et demi de prison pour des délits, vols et violences soi-disant commis lors des manifestations. Vincenzo et ses 9 co-inculpés sont condamnés sur la base du code Rocco introduit en 1930 dans la loi italienne sous Mussolini, datant donc de la période fasciste. Un texte qui permet au nom de la notion de concours moral de sanctionner la simple présence à des manifestations considérées comme insurrectionnelles sans preuve factuelle. Le 13 juillet 2012, la Cour de cassation de Rome confirme leur condamnation pour dévastation et pillage avec des peines de 6 à 15 ans de prison. L'incarcération immédiate est requise pour 3 d'entre eux, dont Vincenzo, qui écope de 12 années et 6 mois de prison pour dommages causés à des biens. Pour échapper à cette peine, Vincenzo part en cavale. « En janvier 2015, la Cour européenne des droits de l'homme condamnera l'Italie pour n'avoir jamais poursuivi en justice les policiers auteurs d'actes de torture contre des militants altermondialistes en 2001 à Gênes. Selon Amnesty International, ces violences constituent
la plus grave atteinte aux droits démocratiques dans un pays occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
On est en droit de se questionner sur cette justice italienne qui ne poursuit pas les policiers et condamne Vincenzo Vecchi à 12 ans de prison pour dommages causés à des biens.
Potrai cambiare volto, se vuoi che vada via. Potrai cambiare nome, se vuoi mandarmi via. Potrai scriverti in faccia, stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai.
Vincenzo Vecchi,
ni prison,
ni extradition,
sur Dissonance. Nous quittons l'Italie pour nous rendre en France, dans le Morbihan, à Rochefort-en-Terre, comme l'a fait Vincenzo Vecchi, il y a 8 ans, pour échapper à la prison dans son pays et refaire sa vie en France. Nous sommes le 8 août 2019.
Anne, tu fais partie du collectif de soutien à Vincenzo Vecchi depuis le début. Donc, c'est-à-dire, le début, c'est pas une vieille affaire, puisque ça commence en août 2019, il y a à peine un peu plus d'un an.
Exactement. Il y a même, ça fait presque 15 mois, voire 16 mois, quand le coup de tonnerre est arrivé, arrestation de notre ami Vincenzo Vecchi, qui était chez une copine, lui donner un coup de main pour peindre un grenier, un truc comme ça. Moi, je me rappelle très bien, j'étais en vacances au festival de jazz de Marchiac, et je reçois le texto totalement effondré là, d'un copain, disant « Vincenzo vient d'être arrêté ». Bon, voilà. Donc, coup de massue. Et Kizako.
Arrêté par la Brigade nationale de recherche des fugitifs suite à un mandat d'arrêt européen, aussi appelé MAE, pour des faits qui remontent à la manifestation contre le G8 à Gênes en 2001 et à une manifestation antifasciste non autorisée à Milan en 2006, Vincenzo est aussitôt incarcéré.
Vincenzo Vecchi a été arrêté jeudi dans la petite commune de Rochefort-en-Terre alors qu'il était chez une amie. Deux mandats d'arrêt européens ont été délivrés par les procureurs de Milan et Gênes pour permettre son arrestation. En 2001, Vincenzo rejoint des groupes d'activistes altermondialistes au G8 de Gênes. En marge de ce sommet, des émeutes éclatent, un manifestant meurt. La justice italienne l'accuse de saccage. Absent de son procès, il est condamné à 13 ans de réclusion. Vincenzo s'exile alors au pays de Questembert, dans le Morbihan, il y a 8 ans. L'Italien, d'une quarantaine d'années, reprend une vie des plus normales. Jean-Pierre, l'un de ses meilleurs amis, raconte.
On tient à plusieurs un bar associatif. Donc il était impliqué au même titre que tout le monde sur ce lieu. Il était bénévole quand on organisait des choses. Enfin, pour nous, il est peintre en bâtiment. Et puis... apprécié de tout le monde. Enfin voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'on était si nombreux hier soir, et c'est que le début, ça peut aller beaucoup plus loin, je pense.
Et Vincenzo risque aujourd'hui l'extradition. Un collectif de soutien a été créé pour empêcher son retour en Italie.
Aussitôt, ses amis, la population de Rochefort-en-Terre se mobilise et un comité de soutien à Vincenzo Vecchi est créé.
Et quand je suis rentré à Rochefort, peut-être une semaine ou 10 jours plus tard, il y avait déjà des dizaines de personnes qui avaient commencé à fonder ce comité, et évidemment je les rejoins comme les camarades.
Donc ce comité au départ s'est penché un petit peu sur le pourquoi de cette inculpation de Vincenzo, parce qu'au départ vous le connaissiez en tant qu'individu, ami qui était venu sur vos terres à travailler, il est charpentier, et c'est petit à petit que vous avez découvert qu'il avait participé à Gênes à ces manifestations en 2001, en 2006.
Voilà, exactement. Je pense qu'on était très très peu, peut-être les plus intimes savaient qu'il avait eu une activité militante, mais je suis même pas sûr. En tout cas, pour nous, là, le cercle de ses connaissances et amis, on débarquait littéralement. Et donc, on a dû faire une... en accélérer, là, prendre connaissance de ce qui lui était reproché, réaliser ce scandale qui était cette accusation et qui le menaçait de 12 ans de tôle pour avoir participé au contre-sommet de Gênes en 2001, alors que ça faisait 10 ans qu'il était dans nos parages, qu'il vivait parmi nous, qui travaillait, qui faisait la fête, qui fréquentait les mêmes lieux. Oui, donc il y avait un petit côté totalement fou. Et là, voilà, c'est là-dessus qu'il a fallu réagir, se ressaisir et réagir.
Le communiqué de presse du comité de soutien, le premier d'une très longue série, est repris par la presse régionale, nationale et même internationale. En voici un extrait.
Comment ne pas s'inquiéter du sort réservé aux manifestants, arrêtés dans ce contexte de montée des mouvements d'extrême droite en Europe? Quel garde-fou est prévu si ce monde venait à rebasculer dans l'innommable? Comment pourrait-on protéger, au nom de la Charte universelle des droits de l'homme, celles et ceux qui s'opposent pour des idées? Dans ce contexte de tensions sociales et politiques, aussi bien au niveau national qu'européen et international, le comité de soutien alerte la société civile sur la répression qui menace la liberté de manifester et les conditions dans lesquelles les États entendent légiférer en sanctionnant la simple présence à des manifestations. C'est pour toutes ces raisons que nous refusons que Vincenzo Vecchi soit remis aux autorités italiennes. Dans le contexte politique actuel, nous ne voulons pas qu'il devienne un trophée de la politique d'extrême droite menée par le gouvernement italien de Salvini.
Depuis 8 ans, Vincenzo Vecchi avait l'habitude de fréquenter ce café associatif de Rochefort-en-Terre comme bénévole pour donner un coup de main au bar ou lors de l'organisation de concerts. Aujourd'hui, une banderole demandant sa libération s'étale sur la façade. Ses amis choqués ne comprennent pas.
Tout le monde le voit comme une belle personne, très, très calme, plutôt discret.
C'est un ami, c'est quelqu'un du village qu'on appréciait beaucoup, qui est calme, qui est... Nous, on le voit comme un ami, et donc ça explique aussi cette mobilisation locale de beaucoup de gens du coin.
Car très vite, un comité de soutien s'est constitué. Il regroupe déjà 80 personnes.
Il a fallu trouver un avocat, le mobiliser, trouver les fonds pour payer l'avocat, etc. Donc le comité de soutien, de fil en aiguille, a trouvé mille et une choses à faire pour aider notre ami. Et évidemment, notre objectif ultime, c'est qu'il reste en France.
Mercredi, tous seront devant le tribunal de Rennes pour soutenir pacifiquement Vincenzo Vecchi, qui doit comparaître devant la chambre d'instruction. En attendant, il a été incarcéré à la prison de Vezin-le-Coquet.
Le mercredi 14 août, donc, se tient au tribunal de Rennes l'audience pour la procédure de mise à exécution du mandat d'arrêt européen. Lors de l'audience, les avocats de Vincenzo ainsi que l'avocat général réclament à la Cour de disposer d'un délai pour obtenir des documents permettant de nourrir ce dossier incomplet et très questionnant. L'une des avocates de Vincenzo souligne également
« La disproportion abyssale des peines entre les dommages causés à des biens et ceux infligés à des personnes ».
Le 22 août, nouvelle audience au TGI de Rennes pour examiner sur le fond la demande de mise en liberté surveillée de Vincenzo.
La mobilisation ne faiblit pas. Environ 200 personnes étaient réunies ce vendredi à Rennes pour soutenir Vincenzo Vecchi et réclamer sa libération. Cet Italien de 46 ans, militant anticapitaliste, a été arrêté le 8 août après 18 ans de cavale. Deux mandats d'arrêt européens avaient été émis, la justice italienne a demandé son extradition. Avant de le livrer à l'Italie, la justice française doit examiner le dossier. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a demandé un supplément d'informations aux autorités italiennes. En attendant, Vincenzo Vecchi reste incarcéré. Sa demande de remise en liberté est soumise à une autre décision de justice qui examine la possibilité de l'assigner à résidence sous surveillance électronique.
Et vous êtes vite passé de la défense d'un ami, du soutien à un ami, à la défense de notions de liberté au niveau européen.
Ben oui, c'est-à-dire qu'il a bien fallu démonter ce mécanisme qui faisait que notre notre ami était sous le coup du fameux mandat d'arrêt européen. Autrefois, on disait extradition, mais ce mandat d'arrêt européen censé permettre aux États de, on va dire, d'échanger des grands criminels et voire des chefs mafieux, se retrouvait au service d'une loi fasciste italienne et donc pouvait éventuellement livrer à l'Italie notre copain pour simple participation à une manifestation. Donc, très franchement, il y avait de quoi être scandalisé de façon presque sentimentale et émotionnelle d'abord, et bien sûr qu'après, tous les tenants, les aboutissants politiques sont apparus et nous les avons, bien sûr, nous les avons communiqués, nous les avons mis en avant.
Le 23 août, la chambre d'instruction du tribunal de Rennes ordonne un complément d'enquête à la justice italienne et donne suite à la demande de mise en liberté surveillée en ordonnant une enquête de faisabilité. Le comité de soutien, déterminé à obtenir le maintien en France de Vincenzo, médiatise, organise la riposte juridique et fait son maximum pour faire connaître cette histoire.
On était membres du comité de soutien de Vincenzo. Du coup, jeudi 8 août, Vincenzo, qui vit depuis 8 ans à Rochefort-en-Terre, est arrêté par la police.
Intervention du comité de soutien à Vincenzo Vecchi au festival de Douarnenez.
Un arrêt européen pour des faits qui remontent à la manifestation contre le G8 à Gênes en 2001. Il y a une manifestation antifasciste à Milan en 2006. Libérez Vincenzo.
Pétition.
Libérez Vincenzo.
Pétition.
Libérez Vincenzo.
Pétition.
Justement, hein, des actions. Il y avait la communication, il y avait la mise en place des outils informatiques, il y avait le juridique. Hein, Dieu merci, quelques personnes étaient un petit peu plus au fait des arcanes juridiques, dont Pascal Jaouen, une ancienne magistrate. Nous sommes tombés sur deux avocats extra, Catherine Glon et Maxime Tessier, qui tout de suite se sont investis bien au-delà de leur profession, c'est-à-dire qu'ils se sont investis comme aussi des amis et des soutiens. Et puis bien sûr, il fallait trouver de l'argent. Et bah, là, pareil, la solidarité a marché à plein, c'est-à-dire qu'en gros, une caisse commune a été montée. Alors là aussi, il fallait des gens qui acceptent de gérer ce côté trésorerie, c'est d'autres compétences, et on a réuni l'argent pour payer les avocats, pour éditer les flyers, pour financer les déplacements, etc., etc.
Le 27 septembre, la liberté sous surveillance électronique est refusée à Vincenzo, alors que l'enquête de faisabilité a été reconnue satisfaisante. On commence à évoquer l'affaire Vecchi dans quelques médias. Ici, Julie Garnier de la France Insoumise sur un plateau télé.
C'est vraiment, je voulais leur rendre hommage parce qu'ils sont une soixantaine à soutenir en fait Vincenzo Vecchi. Vincenzo Vecchi, c'est qui ? C'est un habitant de Rochefort-en-Terre déjà et qui est sous le coup de deux mandats d'arrêt européens. Deux mandats d'arrêt européens qui sont aujourd'hui contestés et contestables, qui sont contrôlés parce qu'il avait manifesté au contre-sommet du G8 à Gênes, à l'époque c'était le G8, et donc qui a subi pour ça donc une condamnation sur laquelle il n'a même pas pu être présent à son procès, et en plus de très lourdes peines. Pourquoi ? Parce que ça repose sur le code Rocco qui permet une condamnation sans preuve. Et donc, on a ce Vincenzo Vecchi qui, aujourd'hui, est en prison depuis le 8 août.
En Italie ?
En France, puisqu'il est habitant en France, donc à Rennes, puisqu'il est sous le coup de deux mandats donc d'arrêt européens. Mm-hmm. Et je voulais rendre hommage à ces personnes qui se rendent compte qu'aujourd'hui, quand on est opposant politique, on est soumis à une vraie pression et à une vraie guerre qui, à chaque fois, essaye de criminaliser, de disqualifier, d'oppresser l'opposition politique. Et je voulais vraiment rendre un hommage appuyé à toutes ces personnes qui savent se mobiliser, non pas pour elles-mêmes, mais pour quelqu'un. Et à travers cette personne, pour une cause. Parce qu'elles se rendent compte aujourd'hui que l'opposition politique vit des heures très sombres, malheureusement, dans un pays qui est quand même le pays des droits de l'homme. Et donc, je voulais leur rendre hommage et je voulais leur dire, on continue le combat, on lâche rien.
Matin d'août 2019, t'es embarqué par les cœurs. Après le choc, il faut se bouger, c'est la naissance du comité.
On n'est plus là simplement pour demander des choses, mais on exige fermement que les dossiers soient cassés et on exige fermement que notre copain, notre ami, notre compagnon soit libéré.
Ouais. N'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées?
Le 15 novembre 2019, les deux demandes d'extradition sont jugées irrecevables et Vincenzo Vecchi retrouve sa liberté.
Le voilà cette fois à l'abri de l'acharnement de la justice italienne.
Peut-on lire dans la presse?
Il a été remis en liberté le 15 novembre suite à la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes qui en fait estimait qu'il y avait une faute de procédure de la part du procureur. Et c'est sur ce point, en fait, sur cette faute de procédure, que Vincenzo Vecchi a été donc libéré sur le champ, c'est-à-dire le jour même, et depuis il n'a pas du tout remis les pieds en prison depuis cette date-là, voilà.
Mais, trois jours après cette victoire, la Cour de cassation, sur demande du procureur, casse le jugement de la Cour d'appel de Rennes en date du 15 novembre 2019. Vincenzo Vecchi devra donc de nouveau comparaître devant une cour d'appel dans les prochains jours. La date en est fixée au 23 mars et l'audience se tiendra au tribunal d'Angers. Mais Covid et confinement oblige, l'audience est repoussée au 2 octobre 2020.
Elles paraissent bien loin, ces images de joie devant le palais de justice de Rennes. C'était il y a un mois. Ce jour de 15 novembre, la cour d'appel de Rennes ordonnait la remise en liberté de Vincenzo Vecchi. Un mois plus tard, la Cour de cassation vient finalement de casser cette décision. Pour son comité de soutien, c'est tout simplement un retour à la case départ. Mais Éric Vuillard, prix Goncourt 2017 et membre de ce comité, insiste, il faut continuer le combat.
On est fatalement déçus, on aurait préféré que ce soit terminé. C'est éprouvant, c'est fatigant aussi, mais bon... voilà, on fait face à l'adversité. C'est à la fois une affaire qui concerne toujours qu'un seul individu au départ, ou un petit groupe en tout cas. Bon. Et puis en fait, c'est la liberté de la société tout entière qui est toujours en jeu. Ça paraît être des mots, mais en fait, ça n'en est pas. C'est même ça qui est au fondement de ce qu'on appelle le droit.
Le droit est d'ailleurs devenu omniprésent dans cette affaire qui se joue bien plus sur la forme que sur le fond. Car à en croire son avocat, ce dossier est devenu un symbole.
Le fait que nous examinions les moyens de forme, c'est pour vérifier si... on peut arrêter aujourd'hui sur le territoire de l'Union européenne quelqu'un dans n'importe quelle condition. Je dis pas que moi je pense que la réponse est non, la réponse elle est non, parce que c'est la loi et ce sont les engagements internationaux et constitutionnels que nous avons pris en France et dans les autres États.
Pour l'heure, on ne sait toujours pas pour quel motif l'arrêt de la cour d'appel a été cassé. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel d'Angers, où Vincenzo Vecchi trouvera sans doute toujours autant de soutien.
Je m'appelle Pascal Jaouen, je suis donc ancien avocat et ancien magistrat. J'ai été contactée par des amis communs et c'est par ce biais que j'ai fini par faire partie du comité de soutien de Vincenzo Vecchi pour donner aussi un regard, une aide juridique sur les problèmes qu'il concerne. Je crois que c'est important aussi de situer dans quel contexte Vincenzo Vecchi s'est retrouvé dans ces événements et dans lesquels les faits qui lui sont reprochés se sont passés. Bon, c'est un jeune homme qui, à l'époque, avait 28 ans. C'est quelqu'un qui en a maintenant 47 qui participait à l'époque avec les 600 000 autres manifestants, a essayé d'alerter comme beaucoup d'autres pacifistes, altermondialistes, au moment où se déroulait le sommet des G8 et donc plusieurs chefs d'État, 7 chefs d'État je crois, étaient réunis à Gênes pour discuter de l'économie du monde. Eh bien, ils avaient envie tout simplement de se faire entendre et de dire qu'un autre monde était possible et qu'il fallait protéger les mondes, les populations de la surconsommation, de protéger l'environnement, de s'insurger contre la financiarisation de l'économie, la mondialisation, etc. Ça a beaucoup dégénéré à cause de violences policières ahurissantes, mais qui ont été reconnues comme telles, hein, c'est pas un avis personnel. Donc on s'est retrouvé avec tous ces jeunes, ces moins jeunes qui défilaient, manifestaient avec une violence pratiquement militaire, puisqu'il y avait des chars, les policiers étaient revêtus mais comme des robocops, et il y a eu des violences terrifiantes qui ont été reconnues même hein, d'ailleurs après aussi par certains chefs de la police. Je pense à un chef de la police qui a déclaré en 2017, donc quand même 16 ans plus tard, dans la Repubblica, le journal populaire d'Italie quoi, hein, qui est très lu, qui a reconnu qu'effectivement, à Gênes, il y avait eu un nombre incalculable de personnes innocentes qui avaient subi des violences physiques et psychologiques qui les ont marquées à vie. C'est quand même important que ça a pu être reconnu par des chefs de la police qui y avaient participé. Donc on est dans un contexte finalement où on a des violences policières, un jeune qui est tué, des maltraitances qualifiées d'actes de torture, notamment à l'école Diaz et à la caserne Bolzaneto. Et puis de l'autre côté, 10 personnes qui sont prises comme des boucs émissaires. Il faut savoir que Vincenzo Vecchi a été arrêté 16 mois après les faits. Hein, donc il n'a pas du tout été pris comme ça, en flagrant délit de quoi que ce soit. Il a été pris avec 10 autres et on leur a infligé à ce moment-là des peines complètement injustes, complètement disproportionnées. Je dis injustes parce qu'elles sont complètement disproportionnées. 12 ans et demi pour avoir manifesté, c'est une peine en France et d'ailleurs en Europe qui est une peine pour un crime, voire un assassinat. Et donc c'est complètement démesuré. Et puis, ce que je voudrais ajouter, c'est que Vincenzo Vecchi a reconnu hein, qu'il avait été présent, qu'il n'avait pas empêché ce qui se passait autour de lui, comme tout manifestant. Tout cela se passe quand même dans une action collective instantanée. Mais ce qui me frappe, c'est que attention, cette personne, elle a payé sa dette. Si elle avait vraiment, pour avoir manifesté, avoir été là en présence d'émeutiers, eh ben, il a quand même fait, ce garçon, 15 mois de prison, 12 mois en Italie et 3 mois et demi en France. Et puis, il a été obligé de complètement changer de vie. Il n'a pas pu poursuivre sa vie de famille avec son enfant. Et il s'est retrouvé complètement déraciné dans un autre pays, à devoir tout reconstruire, apprendre une nouvelle langue, travailler autrement. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable, quoi, le prix cher qui doit être payé par ce jeune homme pour juste avoir rêvé d'un autre monde meilleur avec 600 000 autres et de se retrouver juste parmi les 10 qui doivent casquer.
Texte d'Éric Vuillard, prix Goncourt 2017, paru dans le Nouvel Obs du 28 septembre.
Il n'allait pas de soi que le récit obscur de notre modernité s'intitule « Le procès ». Pourtant, ceux qui ont participé au soutien d'une personne poursuivie par l'État ont tous fait l'expérience troublante d'une disproportion des forces, d'une inégalité irréductible entre l'État et les citoyens. Même si l'on peut toujours se féliciter de l'existence d'un comité de soutien en faveur d'une personne que l'État accable de sa vindicte, même si toute mobilisation en faveur de la liberté est une bonne nouvelle, il est toutefois inquiétant que la défense d'un citoyen ordinaire nécessite absolument l'appui d'un groupe, d'un comité de soutien, pour avoir la chance d'être entendu. Comme le héros du livre de Kafka, l'individu isolé se heurte à une bureaucratie puissante, à un système légal prépotent, retors, et les procédures censées en principe protéger ses droits et garantir ses libertés se retournent en pratique contre lui. Nous sommes égaux sur le papier. Les procédures sont les mêmes pour tous, mais les moyens de les mettre en œuvre exigent davantage d'efforts pour certains. Cette affaire est aussi pour nous un moyen de comprendre bien des choses par la pratique. progressivement au gré des procédures. Et cette dernière date, celle de la prochaine audience le 2 octobre, est l'occasion de serrer d'un peu plus près la notion de preuve. Nous avons enfin obtenu, après plus d'un an, les photographies prises durant les événements de 2001 à Gênes, qui furent les uniques pièces à conviction sur lesquelles s'est appuyée la justice italienne pour condamner Vincenzo Vecchi à 12 ans de prison. À réception des 211 photographies, une impression d'exhaustivité domine. Le nombre de documents donne un sentiment de sérieux. Il va falloir travailler. Après avoir fait défiler ces 211 photographies, nous sommes surpris de n'en trouver qu'une cinquantaine où l'on voit Vincenzo Vecchi, tandis que les 160 photographies restantes n'ont aucun lien avec lui. En somme, la police et la justice italienne ont gonflé le dossier avec environ 160 photographies inutiles. En tout et pour tout, à peine 25% des preuves seraient a priori exploitables. Sur la plupart des photographies, on aperçoit des groupes de jeunes gens en train de causer, la façade d'un immeuble squatté, le visage d'une fille en train de rire, une réunion décontractée dans un parc, des manifestants qui défilent, mais aussi des vitrines cassées, une voiture brûlée, des poubelles renversées. On serait tenté de dire que ces photographies ne servent à rien. Cela est faux. Ces 160 photographies ne prouvent certes rien, mais elles servent à quelque chose. Cette pléthore a une fonction. La première fonction est d'impressionner. C'est la manière la plus simple de donner le sentiment qu'il existe beaucoup de preuves. C'est une façon d'accabler la défense. En second lieu, c'est une manière de décourager. Devant la masse de documents, le travail de démonstration devient plus exigeant. Il faut évoquer un nombre considérable de photographies, les analyser. C'est une façon de submerger la défense, de noyer son propos parmi les commentaires superflus. En troisième lieu, cela dissimule autre chose de beaucoup plus grave, qui touche au fond de l'affaire. La cinquantaine d'autres photographies, celles où l'on voit Vincenzo Vecchi, ne le montrent qu'une seule fois en train de commettre un délit. Il vole des planches sur un chantier. C'est tout. Or, je ne sache pas que l'on puisse condamner à 12 ans de prison, puis émettre un mandat d'arrêt européen pour le vol de quelques planches. C'est pourquoi les autres photographies, celles où l'on ne voit jamais Vincenzo, sont en réalité très utiles. Elles ont vocation à combler le vide. Elles construisent un contexte. En effet, elles permettent de placer Vincenzo Vecchi dans le contexte général des manifestations afin que ce contexte déteigne sur lui. Elles permettent de construire une fiction. Peu importe que l'on n'ait pas les opinions politiques que l'on prête à Vincenzo Vecchi, il faut le défendre. Et à travers lui, il faut défendre notre liberté, celle de chacun. Le fait même de ne pas partager les opinions de ceux qui ont manifesté contre le G8 en 2001 à Gênes, le fait même d'avoir des opinions contraires, devrait nous renforcer dans la conviction de le défendre. Avec la justice, on ne transige pas sur des opinions. On ne défend pas seulement ceux de son bord. On ne s'assure pas seulement des citoyens les plus paisibles, les plus convenables. Au contraire, la justice se joue lorsque nos opinions divergent, lorsque nos sentiments s'éloignent, lorsque nous nous trouvons face à l'autre.
Un matin d'août 2019, t'es embarqué par les keufs. Après le choc, il faut se bouger, c'est la naissance du comité. Nos cerveaux sont mutualisés, on se sent tous concernés. Les petites gens vont farfouiller, trouver des failles dans le dossier. Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? En 2001, j'ai mis de gêne, 300 000 gens ça gêne. Ils viennent pour scander leurs idées, mais vont se faire torturer. Les policiers sont condamnés, mais restent en liberté. Vincenzo Vecchi aujourd'hui encore et toujours poursuivi. Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? En 2006, Milan tolère des faves qui crachent leur colère. Vincent et d'autres vont se soulever, vite on va les sanctionner. Cette peine, elle est déjà purgée, mais l'Italie s'arrangera pour ajouter ça au dossier. Qui est-ce qui bafoue le droit? Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? La France sera-t-elle complice d'une Italie hors la loi, de lois fascistes et d'injustice sans composer tes mandats? Ou soutiendra-t-elle pour une fois ceux qui risquent leur liberté? Ces alerteurs des dégâts que nos États ont engendrés. N'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées?
Vincenzo Vecchi.
Ni prison,
ni extradition.
Sur Dissonance.
Et nous arrivons donc au 2 octobre 2020. C'est l'audience à la Cour d'appel d'Angers qui doit statuer sur la remise ou non de Vincenzo à l'État italien.
Après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, l'affaire a été rejugée le 2 octobre dernier devant la Cour d'appel d'Angers. Le verdict sera rendu le 4 novembre. Il décidera de la remise ou pas de Vincenzo à la justice italienne. Si ce verdict lui est favorable, il permettra à Vincenzo de vivre librement en France, mais les deux mandats d'arrêt européens continueront d'être actifs partout ailleurs en Europe.
La décision finale sera donc rendue le 4 novembre. L'espoir est grand chez les membres du comité de soutien. Mais au-delà du cas de Vincenzo, l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, s'il est favorable, rappellera utilement que le mandat d'arrêt européen ne saurait servir à étendre automatiquement dans tout l'espace européen des dispositions liberticides de tel ou tel système judiciaire. Cela vaut pour cet article 419, issu du droit fasciste.
Cela pourrait valoir demain pour des demandes formulées par la Hongrie ou la Pologne, régulièrement mises en cause pour leurs atteintes aux droits fondamentaux.
Écrit François Bonnet dans Mediapart.
Lors du procès, ce qui a été présenté, je dirais, il y avait d'abord une chose très étonnante, c'est le sérieux avec lequel le tribunal d'Angers, et en particulier le président, avait pris les choses, puisque il y avait une dizaine de points sur lesquels il souhaitait se fonder et qui devaient constituer de fait les plaidoiries et du procureur et donc des avocats, du cabinet d'avocats de M. Vecchi, qui avait été globalement défendu par les avocats de M. Vecchi, portait sur un certain nombre, bien évidemment, je dirais, il y a toute une série de motifs de défense. Dans ces motifs de défense, contrairement à ce qui s'est passé à Rennes, où Rennes va casser, en quelque sorte, le MAE sur une faute de procédure, et donc par conséquent sur la procédure, sur Angers, les choses vont se faire tout à fait différemment. Tout d'abord, il va écarter, le tribunal va écarter toute une série de points de procédure et se concentrer sur deux éléments centraux. Le premier élément, donc, c'est sur la peine dévastation et pillage, sur le contenu de cette peine de dévastation et pillage, qui représente toujours, je dirais, 10 ans, hein, 10 ans d'incarcération. Et puis, le président du tribunal avait prévu, en fait, un second procès qui aurait lieu le 28 novembre concernant le traitement du reliquat. Hein, c'est-à-dire que sur les 12 ans et demi pour lesquels, je dirais, Vincenzo Vecchi était condamné, il y avait 10 ans concernant dévastation et pillage et une série d'autres motifs moins importants, plus secondaires, qui en tout représentaient lieu le 28 novembre, eh bien, je dirais, il y avait des mesures qui pouvaient être prises pour que, compte tenu, je dirais, de la situation de Suveki, il a un travail en CDI, il a un lieu d'habitation continu depuis 2012. Il n'écartait pas le fait que, je dirais, il y aurait un aménagement de peine. Sur cette base-là, le tribunal d'Angers va déclarer que M. Vicky, sur dévastation et pillage, le tribunal a donc évoqué le fait que, comme cette peine n'existait pas en France en 2001, et comme les faits incriminés ne pouvaient pas être condamnés sur la base de la loi française telle qu'elle existait en 2001, il n'était pas possible, donc par conséquent, de constituer ce que le MAE appelle la double incrimination, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait exactement, ou en tout cas une peine voisinante, ou en tout cas une dénomination voisine, entre, je dirais, les accusations et les peines données en Italie, les accusations et les peines qui pouvaient être données en France en 2001. Tout ceci, cette accusation est basée sur une loi italienne datant des années 30, appelée la loi Rocco, donc en pleine période mussolinienne, et c'est une loi qui est typiquement, spécifiquement fasciste, comme le dira M. Rocco à l'Assemblée nationale italienne. Et donc, cette peine, complétée par une loi italienne de 75 qui évoque la notion de concours moral, fait que vous êtes en mesure de condamner quelqu'un sans avoir la moindre preuve et sans donner la moindre présomption d'innocence à la personne. Puisque, je dirais, ce qui est appelé le concours moral signifie tout simplement que le fait d'être là en tant que manifestant, eh bien, fait que vous êtes tout aussi responsable que les personnes qui peuvent éventuellement commettre des actes délictueux.
D'accord.
Donc voilà un peu le tableau. Donc on est à la fois sur une nature de peine, je dirais, à l'origine italienne, qui est complètement contraire au droit européen, est d'abord complètement contraire au droit français, puisque le droit français implique la responsabilité individuelle, mais aussi la présomption d'innocence. Or, comment dire, le droit italien, dans cette approche faite dans le délit de dévastation et pillage et le complément dit de concours moral, fait que vous êtes dans une responsabilité collective et vous n'avez pas de présomption d'innocence, vous êtes plutôt en présomption continuelle de culpabilité. Et donc, par conséquent, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers va dire que ce type de délit et d'accusation n'existait pas en France en 2001 et donc par conséquent ne va pas la retenir.
Le 1er novembre, le comité reçoit un courrier d'Italie écrit par Eri De Luca. L'écrivain y dit
« Ma conviction est que les mises en accusation collective par groupe trahissent le principe de la responsabilité individuelle. Ce sont des instruments de justice sommaire qui frappent dans le tas aveuglément. »
Et mercredi 4 novembre, la cour d'appel d'Angers rend une décision globalement très positive. Le chef d'inculpation, dévastation et pillage pour lequel Vincenzo a été condamné à 10 ans de prison est rejeté, les juges estimant qu'il n'existe pas d'équivalent en France. D'autres chefs d'inculpation sont toutefois retenus, laissant à Vincenzo un reliquat de 2 ans et 4 mois à purger, ramené à 15 mois en prenant en compte le temps qu'il a déjà passé en prison. Il ne reste alors plus qu'à s'assurer que ce reliquat puisse être purgé en France et non en Italie, et de savoir s'il va y avoir un aménagement de peine. Une nouvelle audience doit avoir lieu prochainement pour en décider.
C'est une nouvelle absolument, c'est exceptionnel. C'est d'abord ce pourquoi on se battait depuis maintenant 15 mois, hein, ce pourquoi on continue de fait à se battre depuis 15 mois. C'est une bonne nouvelle parce que on reconnaît, enfin, et c'est la première fois sur l'ensemble des procès concernant Gênes, c'est la première fois qu'une cour reconnaît que, je dirais, le délit de dévastation et pillage donc ne peut pas être retenu, en tout cas pour la législation française, le code pénal français. Donc on est face, bien évidemment, une très très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle à la fois parce que le procès a lieu sur le fond et que sur le fond, je dirais, Vincenzo Vecchi n'est pas considéré comme étant coupable des faits qui lui sont incriminés. Mais toutefois, il faut trouver un moyen qui permette de faire en sorte, je dirais, qu'il ne soit pas coupable. Et un des moyens, c'est bien évidemment la double incrimination, puisqu'on savait que, je dirais, en 2001, le délit de dévastation et pillage n'existait pas en France. Et donc, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Et c'est d'autant plus une excellente nouvelle qu'il était évoqué d'emblée lors du procès que, je dirais, le 28 novembre, ce qu'on appelle le jugement concernant le reliquat de peine aboutirait à des choses probablement extrêmement légères et très aménagées.
Après la communication de cette décision, Mediapart considérait qu'il était peu probable que l'avocat général se pourvoie en cassation, tant l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers, établissant l'absence dans le droit français d'un équivalent de la loi italienne réprimant les saccages et dévastations, tant cet arrêt était précis et argumenté. De plus, la possibilité d'exécution d'un reliquat de peine en France semblait avoir pour but de ne pas humilier la justice italienne. Le lendemain, 5 novembre 2020, paraît dans Le Monde une tribune intitulée « Affaire Vincenzo Vecchi, la politique pénale européenne doit être l'expression de nos principes ». Le texte est signé par 92 personnalités, parmi lesquelles les deux anciennes ministres de la Justice, Christiane Taubira et Marie-Lise Lebranchu, appelant à rester vigilants concernant les droits des pays démocratiques qui ne sont pas à l'abri de dérives. Ils y affirment notamment que, suite au refus d'extrader Vincenzo émis par la Cour d'appel d'Angers,
l'honneur de la justice française serait de savoir en rester là.
On a été aussi aidé par des gens super comme Éric Vuillard, l'écrivain Éric Vuillard, qui s'est investi très très rapidement, que, grâce à qui nous avons pu obtenir la publication des tribunes dans Le Monde, ce qui n'est pas rien, qui nous a permis de réunir un aéropage de signatures très très prestigieuses. Je vous dis que récemment, Christiane Taubira, Eva Joly, Marie-Lise Lebranchu se sont joints à ces signataires. Et donc, ce n'est pas rien.
Seulement, voilà, deux jours après que cette décision soit rendue, on apprend que le procureur d'Angers décide de se pourvoir en cassation.
Il y a un acharnement incompréhensible du parquet dans cette affaire,
estime l'écrivain Éric Vuillard, membre du comité de soutien à Vincenzo Vecchi.
Voilà, et donc, on apprend ça le vendredi. Bien évidemment, ça nous sidère. Ça nous sidère d'autant plus que, je dirais, était paru la veille une tribune dans Le Monde. Qui évoquait très très clairement finalement que l'honneur de la France était probablement d'en rester là, et cette tribune était signée par une centaine de personnes,
dont des anciens ministres,
deux anciens gardes des Sceaux. Donc vous avez Christiane Taubira et puis une autre garde des Sceaux, et également Eva Joly, plus toute une série d'artistes, d'écrivains, etc., etc. Voilà. Donc on est à la fois extrêmement surpris de l'acharnement, furieux bien évidemment en même temps, de cet acharnement, de cette volonté en quelque sorte de quasiment transférer, en fait, faire en sorte qu'en France, finalement, on puisse, par le biais de l'Italie, inculper quelqu'un sur sur la base, en fait, d'une loi fasciste, puisque c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire quelque chose qui est parfaitement contraire, en quelque sorte, à notre droit, hein, puisque notre droit ne s'appuie pas sur le collectif, mais sur l'individuel, et, comment dire, est basé aussi sur la présomption d'innocence, ce qui explique bien évidemment le besoin de preuves, hein, alors que ça n'est pas du tout le cas, je dirais, en Italie. Donc on est surpris, fâché, etc., etc.
Et vous gardez toujours l'optimisme intact, surtout après ce qui vient de se passer, où il y a un second renvoi en cassation?
Oui, bah, je te dirais que, enfin, je suis obligé de te dire qu'on a eu un coup de massue, parce qu'on on espérait voir le bout du tunnel, et l'arrêt là, du 4 novembre, enfin le pourvoi en cassation, deux jours après l'arrêt d'Angers du 4 novembre, nous a quand même sérieusement atterré. Mais l'optimisme est un devoir, hein, et nous sommes bien entourés, nous sommes nombreux, nous avons le bon droit et la justice pour nous. Et bien sûr qu'on espère, on espère que cette cassation soit sera rejetée, soit sera réfutée.
Dans un communiqué, les membres du comité de soutien se disent
atterrés, consternés, révoltés par cet incompréhensible et délirant acharnement judiciaire, qui nous semble relever plus de choix politiques que de cohérence juridique.
Il note en outre
la concomitance de ce pourvoi avec le fait que le ministre de l'Intérieur italien vient de promouvoir deux policiers condamnés pour falsification de preuves, ce qui a déclenché la sauvage répression de 2001 lors du sommet de Gênes.
Le 12 novembre, Vincenzo se pourvoit à son tour en cassation dite « incidente » sur la base des solides arguments juridiques développés par ses avocats. Dans un récent communiqué, le comité finit par ces mots
« Nous espérons que la Cour de cassation saura enfin faire cesser l'absurdité de la situation actuelle. Le combat continue. Plus que jamais, nous devons rester mobilisés et déterminés avec Vincenzo pour faire face à la répression. »
On essaye de meuter bien sûr la presse. La période de confinement ne nous aide pas vraiment, mais on a confiance dans le travail des avocats. Et puis on se dit que cet acharnement va finir par, j'espère, trouver son propre ridicule et puis rester caduc.
Merci beaucoup, Anne.
Merci aux membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi qui ont permis la réalisation de cette émission. Pour vous informer sur les actions du comité de soutien et participer en soutenant ou en relayant leurs actions, consultez leur site comité-soutien-vincenzo.org. Consultez aussi leur page Facebook, facebook.com/soutienvincenzo. Consultez aussi leur chaîne YouTube et leur pétition ouverte à signer en ligne sur change.org. Il est aussi possible d'aider ce comité et de soutenir Vincenzo en participant financièrement, un appel à dons se trouve sur leur site, afin de soutenir les frais inhérents pour assurer une défense digne de ce nom. Pour les contacter, une adresse mail comité.soutien.vincenzo@gmail.com. Vous trouverez tous ces liens sur la page internet de dissonance.ovh.
Salut
et fraternité.